Il n'y a pas de plus beau témoignage pour une église que des vies transformées. Le grand témoignage d'une église, ce n'est pas les structures ou les beaux bâtiments, même si c'est important tout cela. Mais le véritable témoignage à la gloire du Seigneur, c'est des vies changées, car c'est vous qui êtes la carte de visite du Seigneur. C'est chacun de nous. Eh bien, puisque nous parlons de la fidélité de Dieu, je voudrais ce matin, cependant, que nous puissions savoir aussi d'où nous venons. Car dans nos vies de famille et dans nos vies d'église, nous avons une histoire. Nous sommes un maillon d'une chaîne. Cela nous évite de nous prendre pour le centre du monde, n'est-ce pas? Nous ne sommes qu'un maillon. Il y a des gens qui nous ont précédés, il y a des gens qui vont nous suivre. Il est bon de savoir d'où on vient et quelles sont nos racines. Et nous voulons, en cette journée, nous souvenir que ce qui existe aujourd'hui en tant qu'église de réveil de Genève est bel et bien connecté à des générations spirituelles qui nous ont précédés. Et nous pouvons dire, même ceux qui sont tout nouveaux dans l'église, peuvent dire, et doivent le dire, reconnaître, que je dois quelque chose à ceux qui m'ont précédé et que je n'ai même pas connu. Je ne leur ai jamais serré la main, je n'ai jamais vu leur visage, mais je leur dois quelque chose. Nous devons quelque chose à ceux qui nous ont précédés parce que c'est eux qui ont prié pour nous, c'est eux qui ont donné pour nous, c'est eux qui ont investi dans les générations suivantes et qui ont donné par leur prière, leur témoignage, leur exemple et leur foi quelque chose qui aujourd'hui nous permet d'être ce que nous sommes. Nous ne sommes pas la grâce de Dieu et par l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui, mais nous sommes connectés et le Dieu de la Bible est le Dieu des générations. J'en ai souvent parlé. Alors même si l'histoire n'est pas vraiment votre tasse de thé, je voudrais toutefois que nous puissions nous souvenir de 2-3 choses de l'histoire. Et vous savez, déjà quand j'étais pasteur à Vevey entre 1987 et 99, eh bien j'entendais déjà parler de l'église de réveil de Genève. Et je ne vous dis pas le nombre de gens qui m'ont dit « Ah, j'ai été touché à l'église de réveil de Genève en son temps » ou bien « J'ai participé au culte pendant que j'étais aux études et à l'université ». Il y a eu, au travers de toutes ces années, un rayonnement. On a touché, l'Église a touché, le message dans l'Église, et le Saint-Esprit a touché des milliers de gens. Et ce n'est pas peu dire, c'est tout à fait authentique. Des milliers. Et combien de centaines ont été baptisés, ont été remplis du Saint-Esprit, ont suivi les enseignements, ont été bénis, etc. Et sont aujourd'hui, quelque part, redevables à ce qui a été un instrument de Dieu pour leur vie pendant un certain temps. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 8, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel t'a fait parcourir. » Et Dieu disait ça à Moïse pour cette traversée du désert. Alors, nous n'avons pas fait que du traversée du désert. Mais nous avons quelque chose dont il faut se souvenir. « Souviens-toi » ou bien « Tu te souviendras ». D'ailleurs, c'est le titre de ce livre que pasteur Hunziker, fondateur de cette église, a écrit. Il a écrit plusieurs livres que vous pouvez qui ne sont plus vraiment disponibles aujourd'hui, mais qui se trouvent encore quelque part dans des rayons de bibliothèque de nos aînés. J'en ai aussi toute une série. Mais ce livre-ci n'est plus édité et vous pouvez le trouver sur notre site internet. Vous allez dans les ressources et vous trouverez ce livre, Le Troisième Réveil. J'aimerais donc vous montrer maintenant quelques extraits parce que j'aimerais, en vous lisant ces quelques extraits, que vous puissiez sentir quelque chose de ce qui s'est passé il y a plus de 100 ans en arrière. Et j'aimerais vous demander de me suivre dans cette lecture qui est très intéressante, qui a été écrite par le pasteur fondateur et qui va nous transporter dans un autre univers que celui de Genève pour nous montrer que nous sommes ici, nous avons été touchés par quelque chose que Dieu a touché d'abord ailleurs. C'est au sud-ouest de la Grande-Bretagne que nous allons nous rendre. Nous sommes en 1890 au pays de Galles. L'état moral et spirituel de cette région des vertes vallées, mais aussi des tristes corons et des noires collines des déchets de mines de charbon est déplorable. L'alcoolisme, la violence, l'immoralité y font de terribles ravages. La misère s'y traîne partout. Les églises, semble-t-il, n'ont rien à opposer à cette marée polluante. Cependant, quelques fidèles réalisent que dans de telles conditions, la seule arme possible est la prière. Ces combattants d'avant-garde ont dû mettre leur vie en ordre selon les directives que le Saint-Esprit suggérait aux hommes et aux femmes en prière. parmi lesquels les jeunes de plus en plus nombreux. Puis, leurs supplications eurent pour requête dominante un appel au Seigneur afin qu'il leur fasse grâce d'une indispensable visitation de la puissance promise du Saint-Esprit. Le chant de cette ardente prière fut le célèbre « Send the fire, O Lord ». Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme de ton feu, de ton feu. Un jeune mineur devenu prédicateur, Evan Roberts, né en 1878, fut un des humbles instruments utilisés pour préparer et propager le réveil extraordinaire qui allait éclater. Il ne cessait d'exhorter ceux qui déjà s'étaient convertis à Jésus à être remplis et baptisés du Saint-Esprit. Il enseignait même aux enfants de l'école du dimanche à prier ainsi « Ô Dieu, envoie ton esprit sur notre région, les enfants !» Quand Evan Roberts visite une église, il demande fréquemment aux chrétiens convertis « Combien d'entre vous sont baptisés dans le Saint-Esprit ? Car il faut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. » Les églises désertées commencent à se remplir. Et l'on chante abondamment les chants d'adoration, fondant les assemblées dans l'unité de l'Esprit. Le revivaliste Evan Roberts, dans les églises où il est appelé, n'y prêche que quelques minutes et parfois pas du tout. Il se contente de prier, de louer Dieu avec les autres. Souvent, les réunions se prolongent durant des heures et de temps en temps, même jusqu'au petit matin, à l'heure où les mineurs doivent regagner le fond. Le 13 novembre 1904, lorsque aurait dû être la réunion de clôture d'une semaine de retraite, le Saint-Esprit descendit sur un millier de personnes réunies à Aberdare, à 20 km de Cardiff. On se souvient de cette date comme du jour où le feu descendit. Ce feu d'amour pour Jésus et pour les perdus se répand de proche en proche. Et si le réveil du Pays de Galles fut un réveil de prières, de louanges, de chants et de démonstrations du Saint-Esprit, ce sont essentiellement les jeunes de 16 à 25 ans qui en furent porteurs et propagateurs. Alors, en l'espace de 2 ans, 100 000 personnes se convertissent au Pays de Galles. Des villages entiers sont embrasés. Les débits de boissons se ferment faute de clients. Les églises sont pleines de gens qui se repentent de leurs péchés, et cela non pas à la suite d'appels pathétiques, mais sous l'action du Saint-Esprit, sous l'effet de ce feu purificateur, la violence et la criminalité reculent. Un juge de Swansea rapporte que le samedi avant Noël, il n'y avait plus personne à juger au tribunal de la ville. Dans la région, on priait et on chantait partout, les mineurs de fond au fond de leurs mines, les fermiers dans leurs champs, les bergers sur leurs collines. L'Église était à genoux. Et comme on dira plus tard un autre Gallois, que nous avons bien connu, le pasteur Thomas Roberts, quand une Église est à genoux, elle est invincible. On parlera dans le monde entier, dans ce réveil du Pays de Galles. C'est durant ce temps de la préparation de ce réveil exceptionnel que naquit George Jeffreys, le 28 février 1889. Il se convertit au Seigneur vers la fin de cette période sans pareil. George Jeffreys. George Jeffreys est actif dans son groupe de jeunes. En 1912, il est baptisé du Saint-Esprit quand son pasteur lui impose les mains lors d'une retraite dans son église. Il va pouvoir rentrer dans une école biblique afin de s'y préparer au ministère. En 1915, nous le retrouvons pasteur en Irlande. Bientôt, ses collègues, reconnaissant en lui le don d'évangéliste, le soutiennent et le lancent dans son extraordinaire carrière de revivaliste. Son message est simple. C'est celui du plein évangile ou de l'évangile aux quatre angles. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise et Jésus revient. George Jeffreys met ce message en pratique avec foi et simplicité. Il appelle à la conversion immédiate. Il prie pour les files de malades. En leur imposant les mains, il chasse les démons. Le principal Jeffreys, tout comme ses pères du réveil, insiste sur le devoir du converti baptisé d'eau, de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit et d'aspirer aux dons, aux charismes spirituels, comme aux manifestations du fruit de l'Esprit. Il prêche avec sérieux et joie le retour glorieux du Christ et l'évangile de son règne qui vient. Des foules de plus en plus nombreuses se rassemblent partout en Grande-Bretagne pour l'entendre et demander la prière. La presse nationale relate ces rencontres extraordinaires où des gens de toutes conditions se convertissent par centaines. Les malades, les infirmes, les incurables sont guéris, parfois spectaculairement miraculés devant tous. En 1926, Le très vaste et fameux Royal Albert Hall de Londres est bondé de gens qui veulent participer à ces rencontres de foi, de joie, d'action spirituelle. En 1928, George Jeffries baptise par immersion plus de 1000 personnes. En 1931, 15 000 personnes remplissent l'immense Crystal Palace où l'auteur de ces lignes, donc le pasteur Hunsicker, vit à 5 mètres de lui la guérison instantanée d'un aveugle total. Les églises de réveil ou les églises Elim se sont ainsi constituées en Grande-Bretagne, fruit de ce renouveau. Sur le continent, donc en Europe, on a entendu parler de ce revivaliste gallois qui est le principal George Jeffries. Plusieurs fidèles se rendent en Angleterre pour observer ce qui se passe. Parmi ces visiteurs de Suisse se trouve un noble serviteur de Dieu, le pasteur Fritz de Rougemont, de l'église réformée de Neuchâtel. Convaincu de l'authenticité biblique de son message, le pasteur Fritz de Rougemont invite Jeffries en Suisse romande. En 1933, a lieu au Grand Hôtel de Caux, sur les hauteurs de Vevey, la première rencontre préparatoire de la première campagne de réveil en Suisse romande. Celle-ci se déroulera à Genève en 1934. Afin de la présenter et d'en suivre les résultats, le pasteur de Rougemont crée l'association L'Union pour le réveil. La grande salle de la réformation est comble pour entendre le principal George Jeffries, dont le portrait est placardé partout en ville sur des grandes affiches. Son message est toujours le même, sombrement, mais sous l'onction évidente du Saint-Esprit, cet homme de Dieu appelle à une décision immédiate et personnelle de conversion à Jésus-Christ. Des gens lèvent la main en signalant ainsi leur engagement. George Jeffries affirme encore, Bible en main, que Jésus est le même hier, aujourd'hui, pour guérir les cœurs brisés et ceux qui sont affligés dans leur corps, car selon ses promesses, il guérit. Il impose les mains en priant à une foule de malades pendant que l'auditoire chante sa foi en la grâce du Seigneur. Tout comme Evan Roberts dans son pays de Galles natal, George Jeffries demande aux chrétiens convertis de rechercher le baptême et les charismes du Saint-Esprit. Et ensuite, il incite chacun à vivre et à témoigner dans l'attente du retour de Jésus. En septembre 1935, sous les mêmes auspices, le principal revient à Genève pour une deuxième campagne, toujours à la salle de la Réformation. L'auteur de ces lignes participe comme aide-traducteur à ces réunions inoubliables. Les membres de l'Union pour le réveil pensent et espèrent vraiment que ce réveil charismatique va pénétrer les églises officielles. Car à l'époque, il n'y avait pas d'église de réveil, il y avait juste un petit groupe de Pentecôte. Mais la plupart des gens venaient des églises traditionnelles en Suisse romande. Cependant, l'heure n'était pas encore venue. Dans ces conditions, une demi-douzaine d'amis et l'auteur de ces lignes, toujours, contrairement à la pensée de l'Union pour le réveil, étaient d'avis que la parole de Jésus, il faut des outres neuves pour le vin nouveau, s'appliquait sans doute à la situation locale du moment. Certes, il existait à Genève comme ailleurs en Suisse, depuis plusieurs dizaines d'années, un petit groupe de pentecôtistes fervents, dont la modeste communauté ici à Genève fut revigorée par la visite de l'évangéliste Smith Wigglesworth dans les années 20, qui était un prédicateur extraordinaire avec des dons de puissance qui partout étaient très reconnus. Il fallait donc faire du neuf. Et c'est ainsi qu'on annonça, par voie de presse, la première réunion de réveil d'une église naissante. Elle aura lieu au troisième étage du bâtiment de la Réformation le mercredi 20 novembre 1935. Ce 20 novembre, une trentaine de personnes étaient venues voir, raconte le pasteur Hunsicker. Puis, peu à peu, malgré une opposition assez générale, étonnant, mais pourquoi s'étonner ? Et parfois très vive, l'auditoire augmentait. Quel était donc son message ? Quel était ce message de ceux qui vinrent le seconder, dont son cher ami, le pasteur Marais ? Jean-Claude, il est là ce matin, c'est le fils de Arthur Marais, pionnier de ce temps-là et ami du pasteur Hunsicker. Ce message était exactement le même que celui du principal Jeffries. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise, Jésus revient. Ce fut l'essentiel de notre prédication et de notre pratique d'évangélisation. Écoutez.
En 1935, notre mémoire renouvelée, c'était l'enseignement de tout le conseil de Dieu, selon l'expression apostolique. Mais notre mémoire n'était pas froidement biblique. Elle était quadruplement ancrée dans la personne du Christ vivant, quadruplement ancrée dans la personne de Jésus, notre merveilleux Sauveur, de ce Jésus, de l'unique, qui sauve de la perdition et du jugement du péché, comme de la solitude profonde.
Voilà, vous avez entendu, je vais encore juste passer un petit peu plus loin. Vous avez, pour ceux qui ne l'ont pas connu, donc entendu la voix du pasteur fondateur, M. Hunziker. Encore juste un extrait qui va durer environ un peu moins de 2 minutes.
Notre mémoire était aussi ancrée dans cette vérité biblique que Jésus était prêt aujourd'hui encore à baptiser dans le Saint-Esprit pour nous mettre en communion vivante avec un Dieu vivant et faire de ceux-là qui voulaient le recevoir des témoins persévérants, courageux et joyeux dans une communion vivante avec un Dieu vivant. Enfin, notre mémoire était ancrée dans cette certitude que ce Jésus, et non pas un autre, mais ce Jésus, selon ses promesses, allait bientôt revenir pour établir leur règne tellement attendu. Et nous savions déjà que sans ce règne établi, il n'y aurait pas de vraie solution pour Israël, ni de manifestation plénière d'une Église triomphante, ni de réponse définitive aux soupirs douloureux de notre planète Terre et de ses habitants, même chrétiens, même bien convertis. Avant que ce règne appelé par tant de prières ne soit enfin établi par la venue du roi, avant le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, tel était notre message, bien-aimé, il y a 60 ans.
Le pasteur Hunziker, c'était une personnalité. C'était, comme vous avez pu vous en rendre compte, une voix. Une voix impressionnante qui captivait et qui savait poser son texte. Il faut savoir que cette construction donc de l'immeuble dans lequel nous sommes fut décidée tandis que notre fonds immobilier était riche de 30 000 francs. L'opération totale allait s'élever à plus de 3 millions de francs. La première estimation budgétaire de 1 400 000 ayant passé pour finir à 3 200 000 francs environ. Dieu seul sait quels sacrifices furent alors consentis par nos membres pour que cette folle entreprise, folle entre guillemets, cependant indispensable, fût menée à son terme. Les fidèles qui déjà pratiquaient librement la dîme en temps ordinaire se sont appauvris pour que ce bâtiment devienne enfin notre outil de travail. Les activités n'ont pas manqué non plus. À l'époque, il y avait les études bibliques du mercredi soir, les réunions de prière du vendredi, les cultes du dimanche abordaient d'autres thèmes d'édification, d'actualité. Il y avait la réunion des hommes, la chorale des hommes, le chœur mixte, la réunion de jeunesse, les réunions de consécration et d'accueil du Saint-Esprit et une troupe de louveteaux et d'éclaireurs. Alléluia, toutes ces bonnes choses. Voilà pour la page historique de ce matin. J'aime ce texte de Jésus qui nous dit « Je bâtirai mon Église ». Nous devons nous souvenir que c'est l'Église de Jésus, ce n'est pas l'Église d'une personne, d'une organisation, d'une association, d'un fondateur, c'est l'Église de Jésus. Et en retour, nous nous offrons à lui, puisqu'il nous a donné sa vie en abondance, son salut et le pardon de nos péchés. C'est pourquoi nous œuvrons avec excellence pour honorer son nom et pour que l'Évangile soit propagé le plus loin possible. Et c'est vrai que si à l'époque déjà l'Église de Réveil avait un rayonnement en Suisse romande et au-delà, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes, où les événements vont tellement vite, notre rayonnement peut être beaucoup plus grand, peut être démultiplié. Et frères et sœurs, je voudrais tellement vous encourager et je le ressens tellement sur mon cœur que nous devons dire « entrer par les portes que Dieu nous ouvre ». Toutes les portes que Dieu nous ouvre, parce qu'on ne sait pas quand elles seront refermées un jour. Et elles peuvent se refermer très vite. J'étais hier à une réunion missionnaire où il y avait un missionnaire d'Asie qui était là et qui nous disait qu'il y a actuellement une porte ouverte pour l'Évangile dans l'Indochine. Il y a une ouverture dans ces régions, mais ils savent tous que c'est pour un peu de temps. Pour un peu de temps, il expliquait pourquoi, je ne vais pas vous le dire ce matin, mais il y a des portes ouvertes dans lesquelles il faut utiliser et racheter le temps, car les temps vont changer. On ne sait pas quand, mais ils vont changer. C'est pourquoi lorsque Dieu nous ouvre des portes aujourd'hui, et nous sommes actuellement, nous devons nous étendre sur Internet, sur la télévision, également sur le satellite, nous voulons être présents, nous voulons faire entendre le message de Jésus et vraiment entrer dans les portes que Dieu nous ouvre. Nous n'avons même pas cherché à ouvrir ces portes, c'est les portes qui se sont ouvertes devant nous. Et j'aimerais vous dire, Église, soyez derrière nous. C'est vrai, vous ne pouvez pas tous être derrière une caméra pour être peut-être filmé pour un message ou un témoignage. Mais priez pour ceux qui font cela. C'est l'Église qui fait ce travail. Et lorsque je vais me rendre en Afrique pour encore enregistrer, eh bien, je vous demande d'être avec moi pour que ces messages aient un impact dans le monde entier. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, il y a aujourd'hui un soupir pour un nouveau réveil. Et si je vous ai lu ces quelques extraits de ce réveil du Pays de Galles, c'est aussi pour susciter en vous ce soupir, cette aspiration. Seigneur, fais-le encore une fois. Seigneur, fais encore. Souffle encore une fois, Seigneur, avec puissance au milieu de nous. C'est vrai que Genève a été au privilège de ce réveil qui a été exporté du Pays de Galles dans toute l'Europe. Mais nous avons besoin aujourd'hui d'un nouveau souffle de réveil. Le christianisme n'est plus majoritaire en Europe. Il est majoritaire en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Et on prévoit que dans les années 2030, il y aura plus de chrétiens en Chine que dans tous les États-Unis. Il y aura plus de chrétiens en Chine qu'ailleurs dans le monde. Ils seront majoritaires. Le Seigneur agit. Et spécialement, il agit dans la persécution, il agit spécialement lorsque les chrétiens souffrent. Frères et sœurs, soupirons après une effusion puissante du Saint-Esprit. Dans notre ville où il y a eu la réforme sous Calvin, où toute la ville, tout le conseil de la ville, il n'y avait pas encore de conseil d'État à l'époque, mais le conseil de la ville, eh bien, avait dit oui à la parole de Dieu, avait invité afin que les bases de la ville et du fonctionnement de l'État de Genève soit véritablement fondée sur la parole de Dieu. On prêchait à la cathédrale tous les jours. On prêchait aussi dans l'auditoire Calvin la formation tous les jours. On formait des pasteurs. L'évangile était exporté par les marchands qui passaient par Genève dans toute l'Europe. Frères et sœurs, cette ville qui était tellement ouverte et qui a une renommée mondiale suite à cela, a besoin aujourd'hui en 2015 d'un nouveau souffle de réveil par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, alors que nous avions pendant presque 2 ans l'interdiction de propager la foi publiquement et que maintenant c'est juste revenu. Hier, nous avons pu donner des Bibles en ville avec autorisation et nous sommes reconnaissants pour cela. Mais nous avons besoin d'un souffle de Dieu à nouveau afin que les cœurs sortent de l'indifférence, afin que notre ville et tous ceux qui habitent cette ville changent de vie et ne s'appliquent pas à faire des choses contre la volonté de Dieu. Mais qu'on cherche le Seigneur de tout son cœur. Et je bénis Dieu pour toutes les initiatives de prière. Et je disais encore au réseau évangélique qu'on sent qu'il y a une plus grande ouverture actuellement. Parce qu'il y a de la prière, parce qu'il y a une prise de conscience. C'est plus facile de travailler ensemble qu'autrefois. Et je bénis Dieu pour cela. Il reste un grand combat, frères et sœurs. Et nous voulons, comme les vaillants hommes de David, tenir le terrain sur lequel nous sommes et nous battre. Et ne pas lâcher, ne rien lâcher entre les mains du diable. Frères et sœurs, il faut que l'Église de réveil se lève pour être des soldats, pour être des combattants, pour être vraiment des vaillants héros remplis du Saint-Esprit qui s'investissent dans la prière et dans le témoignage pour leur ville et pour les leurs. Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? Est-ce que vous sentez que ce feu de Dieu va descendre au milieu de nous lorsqu'il y aura sur l'autel de Dieu posé des victimes que nous sommes, posées sur l'autel de Dieu véritablement, nos vies offertes au Seigneur. Et c'est lorsque nos vies sont offertes, lorsque nos corps et nos vies sont offertes, que le feu de Dieu descendra sur nous. Et je bénis Dieu pour l'action du Saint-Esprit. Seigneur, envoie encore un réveil. Et vous savez, chaque fois que Dieu agit, le diable se démène. Il s'est démené dès le début, nous l'avons entendu, dès le démarrage de l'Église, il y avait déjà de l'opposition. Ils étaient que quelques-uns, il y avait déjà de l'opposition. Même après le passage de Jeffreys, où la salle était pleine, il y avait de l'opposition. Devons-nous donc nous étonner de ce qu'il y a aujourd'hui de l'opposition? de ce qu'aujourd'hui le diable veut déconstruire ce que Dieu construit, veut mettre par terre ce que Dieu veut élever, veut décourager là où Dieu encourage. Nous ne devons pas nous étonner de ce que là où le Saint-Esprit agit, le diable contre-attaque. Et chaque église, et surtout une église comme la nôtre qui a 80 ans d'histoire, elle n'a pas été épargnée par les attaques du diable, il faut le savoir. Il y a eu des attaques. Bien sûr, le diable travaille toujours avec le péché de l'homme, il travaille toujours avec les mauvaises relations ou les blessures intérieures. Il exploite les misères humaines pour faire encore plus de mal et pour monter les gens les uns contre les autres, etc. Et je dis, Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as faite, parce que dans les temps de vallées et d'épreuves qu'a connu l'Église, et dont je ne vais pas entrer en détail car je serais aussi mal placé n'ayant pas été là à l'époque, mais je dis, Seigneur, merci pour ta grâce car tu nous as relevés. Tu as relevé les aînés qui sont là, j'aimerais vous dire merci parce que vous auriez eu beaucoup de raisons de quitter l'Église. Mais vous êtes encore là, quelques-uns d'entre vous. Et nous voulons, nous, jeunes générations, vous remercier d'avoir été fidèles, d'avoir tenu le coup, alors que vous avez vu passer aussi tant de styles et de pasteurs différents, tant de prédications différentes et tant de musique et de toutes sortes de choses de différents. Vous avez accepté tous ces changements qui sont venus et vous êtes toujours là. Merci pour votre exemple de fidélité. Les jeunes en ont besoin. J'aimerais dire également que si nous avons reçu avec les années une bonne structure, que l'Église de Réveil est aussi connue pour sa tenue dans ses activités, sa façon de vivre l'Église, c'est en fait un héritage aussi. C'est un héritage dont nous sommes reconnaissants. Mais ce que j'aimerais dire, frères et sœurs, que la structure ne doit jamais étouffer la vie. C'est la vie qui prime. Et la structure doit se mettre autour de la vie pour soutenir et supporter la vie. La structure, quelle qu'elle soit, que ce soit des statues ou même un bâtiment, elle est au service de la vie. Amen. Elle n'est pas un outil avec un but ultime d'avoir quelque chose. Et bien sûr, il faut maintenir ce que nous avons reçu. Mais la vie prime, la vie de Dieu, la vie du Saint-Esprit, la vie de l'âme, même la plus fragile, a plus de valeur que n'importe quelle structure. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et je voudrais qu'aucune personne qui rentre ici sorte déçue parce que personne ne l'a saluée, personne n'a jamais rien vu. Elle a été peut-être dans sa frustration et sa blessure intérieure mal accompagnée. Ça peut arriver. Mais je ne voudrais pas qu'une structure soit un handicap et qu'une tradition tue la vie. Jamais. La vie prime sur la structure, toujours. Frères et sœurs, c'est important. Nous voulons laisser le Saint-Esprit agir. Une église qui vit, qui grandit, est une église qui sait accueillir. Et j'aimerais vous dire merci à toutes les équipes de travail dans tous les domaines pour votre accueil, pour votre ouverture de cœur. Écoutez ce qu'une dame a écrit la semaine passée. Un jour du mois de mai, je devais me rendre chez l'ostéopathe, qui n'est autre que monsieur, je ne citerai pas son nom. J'ai parlé de spiritualité avec lui. Il m'a invité à venir un dimanche à l'ER. C'est par un beau jour de dimanche que je me suis rendu dans votre communauté. Étant un peu à l'avance, j'ai pu apprécier la belle musique. J'étais émerveillé et mon cœur était très touché. Ensuite, j'ai écouté, j'ai suivi le déroulement de la cérémonie et du coup, une grande joie m'a envahi. L'assemblée était joyeuse, chaleureuse, pleine de douceur et d'amitié et j'y étais très touché. Depuis, je me réjouis chaque semaine de voir venir dimanche pour partager cet amour, cette force qui émane de votre communauté. Merci Seigneur de m'avoir fait voir que désormais je ne suis plus seul dans ma spiritualité. J'ai une nouvelle famille et une sorte de bouclier qui me protège durant ma semaine. Personne toute nouvelle, je ne sais pas si vous êtes là ce matin. L'amour et l'attention que nous portons les uns aux autres est source de guérison. Vous savez qu'autant la critique tue, même la critique par derrière. Le Seigneur l'entend et le Saint-Esprit est attristé, ça bloque l'action du Saint-Esprit. Mais lorsque nous nous encourageons, lorsque nous choisissons de ne pas donner suite à tout ce qui ne marche pas, puisque les activités étant en augmentation, il y a forcément de plus en plus de choses qui ne jouent pas très bien, forcément. Si vous ne faites rien, vous n'avez pas de problème, personne ne vous critiquera. Mais si vous faites un tas de choses, forcément vous aurez tel ou tel objet de blâme parce que vous avez oublié ceci, vous n'avez pas fait cela, et puis vous êtes stressé, vous êtes nerveux, etc. Mais la critique bloque toujours l'action du Saint-Esprit. Mais j'aimerais aussi vous dire que si nous nous aimons et que nous nous encourageons, vos leaders, vos responsables de secteur et vos pasteurs seront tellement dynamisés par votre amour qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Nous nous donnons le meilleur de nous-mêmes parce que nous sommes encouragés par l'amour de l'Église. Mais si nous sommes écrasés par les critiques, et j'ai aussi connu des temps pareils, qui sont heureusement derrière. Mais lorsque vous êtes écrasés de critiques, mes amis, vous soupirez. Et la Bible dit, c'est pas bon pour les serviteurs de Dieu de soupirer en travaillant. C'est pas bon. Ça ne vous est d'aucun avantage. Mais lorsque nous sommes aimés, eh bien, nous nous boostons les uns les autres. Nous nous élevons les uns les autres. Nous nous encourageons et nous avons des forces multipliées. Alléluia. Et je peux vous le dire par expérience. Là où nous avons également grandi, et je bénis Dieu pour cela, nous avons passé de l'animation musicale à l'adoration profonde. Nous avons passé de l'animation musicale. Je ne veux pas dire par là qu'avant, ce n'était pas bon, parce que je pense que la force et la ferveur des cantiques anciens, j'y tiens beaucoup et j'y crois à cette force. Mais mes amis, l'important, c'est que l'Église puisse connaître l'adoration, puisse être conduit dans l'adoration. Est-ce qu'il y en a qui ce matin peuvent dire, mais dans l'adoration, pour moi, c'est très important. C'est très important. Ce n'est pas seulement la musique qui est importante, mais c'est l'adoration qui compte. J'aimerais vous demander, et là aussi je dis merci aux aînés d'être entrés dans le nouveau style que nous proposons. Il n'y a pas de vedette ici devant. Mais le but que je dis toujours au groupe Louange depuis des années, je dis cela, c'est de prendre l'assemblée où ils sont et de les élever plus près de Dieu. Ils sont partis le matin, ils ont garé leur voiture, ils ont mis de l'argent dans le parking, ils sont venus avec leurs enfants qui n'ont peut-être même pas mangé. Ils sont venus, ils ont fait des efforts. Élevons ensemble l'assemblée dans l'adoration pour vivre un temps puissant dans la présence de Dieu. Et en 30 minutes, c'est une prouesse de pouvoir faire ça en 30 minutes. Parfois, ce n'est pas assez. C'est pour ça que si ça tenait qu'à moi, je ferais plus de louanges pour être vraiment puissamment visité. Lorsque vous avez vécu des guérisons dans la louange, lorsque vous avez vécu des renouveaux dans la louange, lorsque vous avez vu des dons de prophétie dans la louange, lorsque vous avez vu des dons de révélation et des miracles dans la louange, vous tiendrez à la louange, je peux vous dire. Vous tiendrez à la louange et vous ne voudrez pas qu'on rabote cela d'aucune manière, car c'est puissant, l'adoration. Je bénis Dieu encore une fois pour la liberté du Saint-Esprit. Lorsque l'Église a connu des épreuves, vous savez, j'ai connu des temps comme cela, où vous n'êtes pas responsable, mais vous êtes quelque part dans un endroit où l'action du Saint-Esprit est bloquée. C'est juste affreux, c'est juste pénible, c'est juste à pleurer. Et je me souviens d'un temps où avec un des stagiaires qui était avec moi, nous avons passé ici des heures en semaine à tourner entre les bancs et dans les allées pendant des heures, prier pour que Dieu fasse quelque chose, pour que la lourdeur s'en aille, pour que quelque part, quelque chose de nouveau se passe. Et à un moment donné, les cieux se sont déchirés et le Seigneur a agi à nouveau. Et nous voulons précieusement garder ce ciel ouvert, ce ciel spirituel ouvert, en laissant la place au Saint-Esprit, en disant, Seigneur, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, même si nous sommes bien organisés, nous ne pouvons quand même rien faire de nous-mêmes sans toi, Seigneur. Et je bénis Dieu pour la place que peut prendre le Saint-Esprit et je désire qu'il ait de plus en plus de place. Et là, vous pouvez dire Amen. Et je tiens beaucoup et je bénis Dieu de nous avoir donné cette ligne également, de pouvoir investir du temps dans la prière. Je suis content de pouvoir dire que chaque jour ici, on prie quelque part. Chaque jour. Et s'il y a une réunion que je n'aime pas enlever, c'est la réunion de prière. La réunion de prière a sa raison d'être. Et nous voulons prier régulièrement. Et je bénis Dieu de pouvoir dire aussi que depuis que nous faisons depuis 13 ans des semaines de jeûne et prière, cela augmente aussi l'atmosphère spirituelle bénéfique pour toute la communauté. J'aimerais que l'Église de Réveil de Genève soit une maison de prière pour toutes les nations. Toutes les nations sont bienvenues pour venir prier ici. Nous sommes 40 nations en tout cas, peut-être des origines différentes encore, mais nous sommes nombreux. Soyons une maison de prière pour toutes les nations. Une maison de prière pour toutes les nations. Mes amis, je voudrais terminer maintenant et pourrais dire encore bien des choses dans lesquelles nous voulons encore grandir et j'aimerais vous remercier parce que vous avez, avec le temps, accepté la vision missionnaire que je porte dans mon cœur. La vision missionnaire dans laquelle je baigne, dans laquelle je suis investi au niveau des églises de réveil, mais dans mon cœur surtout. Et je vous remercie d'avoir cet élargissement de cœur, d'avoir un regard pour le monde entier. Je ne veux pas dire prendre les paroles d'un autre grand revivaliste, parce que ça ne me revient pas, qui citait « Le monde est ma paroisse ». C'est John Wesley qui disait cela. Nous donnons, depuis plusieurs années maintenant, 10% de toutes nos entrées à la mission. Ajoutez à cela les ventes missionnaires, les colis de Noël, les offrandes spécifiques, les cours sponsorisés et d'autres choses encore. J'aimerais vous remercier, vous qui parrainez des enfants dans les pays pauvres. Eh bien, merci pour tout ce que vous faites pour la mission. Continuons à investir. Investir pour la mission et pour que l'œuvre de Dieu avance dans le monde. Bientôt viendra le jour où personne ne pourra plus travailler. Tant qu'il fait jour, travaillons ensemble, frères et sœurs. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. C'est ce que l'apôtre dit dans Hébreux chapitre 6. Et montrez ainsi le même zèle jusqu'à la fin pour avoir une pleine espérance. Et ne vous relâchez pas, dit-il encore au verset 12, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et puis Jésus leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Et le Seigneur, après avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux. Je vous invite à vous lever. Et le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait la parole. Et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est ainsi que se termine l'évangile de Marc. Et nous sommes la prolongation de cet évangile. Nous sommes les témoins du 21e siècle. On nous a transmis l'évangile de témoin en témoin depuis les temps apostoliques, la première église. Mais c'est le même Seigneur. C'est le même évangile, c'est la même puissance, c'est le même Saint-Esprit, c'est la même Bible, les mêmes promesses qui sont notre héritage. Ce matin, laissez-vous imprégner par la vision de l'Église. Acceptez cette vision et soyez de cœur avec nous. Nous voulons nous laisser remplir par le Saint-Esprit. Merci pour vos prières pour l'équipe pastorale. Nous voulons vous conduire vraiment dans une vision large, dans une vision qui a un impact dans notre société d'aujourd'hui. Nous avons tant de gens à atteindre, même dans ce quartier, même dans ce quartier. Que le Seigneur nous aide et redouble la vision, redouble l'onction. Et que ce ne soit pas seulement l'onction de Jeffries ou l'onction d'Unsicker, mais que ce soit l'onction du Saint-Esprit sur chacun de ses disciples dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Louange à toi, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, Seigneur, nous sommes tellement heureux de ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité est tellement extraordinaire. Merci, Seigneur, pour ta grande fidélité. Merci pour ta grâce. Tu as soutenu l'Église durant ces décennies, Seigneur. Jésus est... Seigneur, c'est vrai, tu as été aussi dans des moments difficiles. Et Seigneur, combien je sentais encore tout à l'heure, Seigneur, combien, Seigneur, nous sommes redevables du pardon que tu nous as donné à ce temps-là, Seigneur. Lorsque l'Église a péché, lorsqu'elle s'est éloignée, lorsqu'elle a fait des choses qui n'étaient pas justes, Seigneur, tu as pardonné, tu as entendu nos soupirs et nos larmes, et tu as aussi, Seigneur, accordé ton pardon. Et après, tu nous as relevés pour continuer avec nous, Seigneur. Nous sommes tous sauf parfaits, Seigneur, loin de là. Tout est grâce. Et Seigneur, donne-nous la foi, Seigneur, aujourd'hui, la foi pour entrer dans les œuvres préparées d'avance. Et nous savons que le Seigneur travaillera avec nous, comme tu l'as fait avec les autres, Seigneur. Donne-nous d'avoir part au Saint-Esprit, part à la vision de l'avenir, Seigneur, que nous soyons dans ce feu du réveil premier, Seigneur, ce même feu dans le nom de Jésus.